le français au pôle sud. Commandant Charcot. 1903-1905, récit de la première expédition française en Antarctique. Extrait. Première partie, été 1904. Du Cap Horn à la station d'hivernage. 27 janvier 1904. À 8 heures du soir, nous avons appareillé, quittant la baie Orange et nous dirigeant vers le sud. Notre court séjour dans ce coin perdu a été comme une sorte de transition entre la vie civilisée et le monde nouveau et désert vers lequel nous nous dirigeons. L'expédition commence pour de bon et les pensées, qui depuis de longs mois ne m'ont pas quitté, se pressent et m'asseillent avec plus de force et de ténacité que jamais. Réussirons-nous ? Et parviendrons-nous à justifier la confiance de ceux qui nous ont soutenus et aidés ? C'est une dure partie que nous jouons, et les critiques, si largement prodiguées au départ, le seront encore plus au retour si nous revenons bredouille. Il ne s'agit même pas ici de vaincre ou mourir, il faut à tout prix réussir, car notre perte même justifierait tout ce qui a pu être dit, ne compenserait pas les sacrifices consentis. Si l'expédition revient, combien, hélas, de ces braves compagnons maintenant si pleins de vie et d'ardeur, si heureux de se lancer dans les aventures de l'inconnu, répondront alors à l'appel. C'est une formidable responsabilité que j'ai assumée et dont je sens aujourd'hui plus que jamais le poids énorme. J'ai non seulement un but à atteindre, mais encore dois-je y parvenir en ménageant les 19 existences de ceux qui m'accompagnent. Mes collaborateurs sont décidés et travailleurs, l'équipage admirable, plein d'enthousiasme, comme le prouve ce souhait du 1er janvier fait en me serrant la main. Que vous nous emmeniez très, très loin, plus loin que les autres. Nos vivres, nos approvisionnements en général sont abondants et supérieurs à ceux de la grande majorité des expéditions. La coque du bateau est bonne à tous les points de vue. Nous sommes suffisamment bien montés pour nos travaux scientifiques, but de l'expédition. Mais la voilure, un peu trop petite et mal équilibrée, nous empêche de virer de bord vent debout. Et la machine, déjà beaucoup trop faible, me cause de sérieuses inquiétudes sur son bon fonctionnement. C'est bien entendu à moi, et à juste titre d'ailleurs, que seront faits tous les reproches, si quelque accident arrive. Et cependant, était-ce possible de remettre encore un départ déjà trop tardif ? Était-ce ma faute si, l'argent manquant, j'ai dû agir avec économie ? N'était-ce pas un tour de force que d'être arrivé à ce résultat avec les faibles moyens dont je disposais, au milieu des ennuis et des entraves qui m'asseyaient dans le temps si court que j'avais devant moi ? C'est déjà bien beau de pouvoir partir, enfin, malgré toute la malchance des débuts de l'expédition qui, jusqu'à Buenos Aires, semblait ne pas vouloir nous quitter. Le départ de Gerlache nous laissait sans spécialiste des glaces. N'aurait-on pas, cette fois, le droit de répéter ces mots qui, si souvent, ont injustement résonné à mes oreilles ? C'est une folie. Mais qu'importe. Tous ont passé outre, malgré ce mécompte. Ma devise n'a-t-elle pas toujours été « pourquoi pas ?» Le résumé de mon caractère, mélange de doute et de volonté. Et puis ce n'est plus seulement un projet qu'il faut mener à bien, des promesses qu'il faut tenir. C'est notre pays même que nous représentons. Et nous n'avons pas le droit d'échouer dans la première expédition française partie pour hiverner. Nous réussirons, car il faut que nous réussissions. Et la phrase de M. Bouquet de la Grille, lorsque j'allais, il y a un an déjà, exposer à lui, l'un des premiers, le plan de l'expédition, me revient toujours à l'esprit comme un encouragement et un conseil. « C'est très beau, mon enfant, ce que vous voulez faire là, mais vous aurez bien du mal. Si vous voulez aboutir, dites-vous tout le temps à vous-même « je veux » et aux autres « ça marche bien. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continuerai à faire. Mais je ne puis, surtout ce soir, chasser toutes ces pensées, hautes, absorbantes, de mon cerveau. Pas plus que je ne peux m'empêcher de songer, avec plus d'intensité que jamais, aux événements qui ont hâté ou accompagné mon départ, aux amis dévoués laissés en Argentine et en France, et aux miens. À tous, j'envoie un au revoir qui peut singulièrement ressembler à un adieu. Et plus que jamais aussi, il me semble que le retour, s'il doit avoir lieu, sera plus angoissant encore que le départ. C'est une nouvelle page de ma vie, que je tourne lentement et gravement, et je ne puis déchiffrer la suivante dans le grand calme de cette nuit, dans la pénombre des hautes falaises, des terres magellaniques. N'importe, nous sommes partis. Nous avons le cap au sud, l'expédition commence enfin. C'est un premier succès. Elle peut me ménager bien des peines et des tracas, je m'y attends, mais rien ne sera jamais plus pénible que les 12 mois par lesquels je viens de passer. Et c'est avec un sentiment ému de gratitude et de reconnaissance que je regarde cette chose presque vivante qui nous emporte et les silhouettes immobiles de mes compagnons, dont les pensées, sans doute, sont semblables aux miennes, mais qui feront réussir notre œuvre. Janvier. À 2h du matin, nous avons dépassé le faux Cap Horn. N'étant plus abrités, nous sentons la grosse houle d'ouest et le français se met à rouler. Je ne suis pas sans une certaine inquiétude, car notre longue traversée de France en Amérique nous a bien prouvé que nous avions un bateau capable de supporter n'importe quel temps à la mer, mais il se trouve actuellement dans des conditions toutes particulières et qui peuvent être défavorables. À Ushuaïa, nous l'avons littéralement bourré de charbon, en entassant partout où nous pouvions, et le soufflage tout entier est sous l'eau. De plus, il nous a fallu arrimer sur le pont quantité de planches et de madriers destinés à la cabane magnétique et à la charpente du tau, ainsi que la maison démontable, arrivée d'Europe, et le bateau s'en trouve considérablement chargé dans les eaux. Que le vent soit ou non favorable, nous allons marcher à la vapeur pour traverser, aussi rapidement que possible, les mers réputées si dangereuses qui séparent le Cap Horn des Shetland du Sud. Il a fait très mauvais ces jours derniers. Tous les marins ayant fréquenté ces parages sont d'accord pour affirmer qu'après un gros temps, on a des chances presque certaines d'avoir quelques jours de calme. Il faut tâcher d'en profiter. D'autant plus que nous sommes dans le mois le moins favorable de l'année. Dans l'après-midi, le vent souffle assez fort de l'ouest, puis du ouest-sud-ouest, avec pluie et brumaille, et la mer devient grosse et hachée. Le bateau, chargé comme il l'est, a des réactions très dures, et presque tout le monde, à l'avant comme à l'arrière, après le séjour en rade d'Ushuaïa, est de nouveau malade. Il y a de quoi d'ailleurs. Et Pléno, qui cependant est un de ceux qui souffrent le moins, chaque fois que je descends en bas, exprime son indignation de me voir toujours indemne. Pour le consoler, je viens lui tenir compagnie en fumant une pipe dans sa cabine, ce qui du reste ne lui fait aucun plaisir. Pendant la nuit, Turquet a failli être noyé. Son hublot, mal fermé, s'est ouvert et l'eau est entrée à flot. N'arrivant pas à le fermer, complètement trempé et affolé par la cataracte glacée, il se précipite dans le carré pour demander du secours à Mata. Mais au moment où il touche au but, un coup de roulis l'envoie à travers la pièce sur le lit de Pléno, ahuri de cette visite violente, et qui, toujours gai et bon garçon, ramasse Turquet entre deux nausées, tombe lui-même et finit par arrêter l'inondation. Dans la soirée, le vent calmit un peu. Thank you. 29 juillet. Il brouillasse avec vent d'ouest et de ouest-nord-ouest. C'est l'ignoble temps que nous appelons boucaille dans la Manche, la houle est toujours grosse, l'air est à 6 degrés, l'eau de la mer à 4 degrés, on se sent trempé malgré les cirés, tout semble mouillé à bord, mais nous marchons bien, toutes les voiles dessus et en bonne route. C'est le principal. D'ailleurs, les malades commencent à aller mieux, et le rôle du cuisinier n'est plus une sinécure. Mais le baromètre baisse rapidement, nous ramassons les voiles hautes dans la soirée, et cette précaution n'est pas inutile car vers 10 heures, nous essuyons un formidable coup de vent de ouest-sud-ouest. Janvier. La nuit a été extrêmement dure. La mer, très grosse, brise avec violence. Elle écaille, comme disent les marins, et un navire moins bon que le nôtre serait en mauvaise posture. Mais lui se comporte admirablement, malgré sa surcharge, et ce tout petit bateau, vrai bateau de mauvais temps, montre alors toutes ses qualités. Avec le fixe, la trinquette, un foc et la misaine de cap, en veillant pour bien prendre les coups de mer, nous fuyons sans trop sortir de notre route. C'est une bonne épreuve. Tout tient bien. Il y a du bon. Un incident amusant s'est encore produit pendant la nuit. Je venais de m'étendre sur mon lit pour tâcher de dormir quelques instants quand, dans un violent coup de tangage, un bruit de tonnerre se produit à l'intérieur du bateau, se continuant par un roulement étrange et des chocs durs et retentissants sur toutes les portes et cloisons. Je sors rapidement de ma cabine et suis vite rassuré par les rires, mais il est devenu impossible de circuler dans le carré. À Ushuaïa, j'avais fait faire une tonne de galetas, petits biscuits ronds et durs, gros comme les deux poings, qui se conservent fort bien et que les estancieros emportent avec eux dans la pampa en guise de pain. Nous en avions casé un peu partout, mais la plus grande partie avait été mise en vrac dans la soute arrière. Dans le fort coup de tangage, nos galetas avaient défoncé la porte de communication avec les WC, envahi ceux-ci, forcé la porte de la coursive et les centaines de petits boulets, ahurissant tout le monde, entraient et se répandaient en roulant partout où ils trouvaient un passage. Ce n'était certes pas aussi grave que la caronade déchaînée de Victor Hugo, mais ce ne fut pas sans peine qu'on parvint à faire rentrer dans l'ordre les galetas révoltés. Au matin, le ciel claircit et le soleil se montre. Le vent tombe graduellement, mais la mer est toujours très grosse. La température de l'air varie entre 3 degrés et 2 degrés. La température de l'eau de mer est tombée à 2 degrés. Le baromètre, qui avait beaucoup baissé, s'est mis à remonter rapidement dès que le vent eut tourné au ouest-sud-ouest. C'est la règle dans ces régions. Le soir, calme. Cette nuit, nous n'allumons pas les feux de position. Pour de longs mois, nous ne risquons plus de rencontrer de navires. Janvier. Vent du nord dans la matinée, entraînant avec lui brume et pluie fine, toujours la fameuse boucaille. Le baromètre baisse de nouveau et le vent se met à souffler frais de l'ouest. Nous ne devons plus être qu'à 45 milles des Shetland du sud et comme, de peur d'être dépalés par les vents d'ouest prédominants, nous avons gouverné volontairement un peu trop au vent, nous laissons porter pour tâcher d'atterrir sur l'île Smith. Pierre, notre guide des Alpes, depuis que le fâcheux mal de mer l'a abandonné, recommence à écrire ses mémoires. Il vient me demander de lui prêter celle qui met loin les paroles. Je suis assez longtemps avant de comprendre qu'il s'agit d'une gomme à effacer. 1er février. Pendant mon quart, le matin, vers 4 heures, entouré de brume, j'entends puis je vois des pingouins en grand nombre nager et plonger autour du bateau. L'estime nous place tout près de l'île Smith. Il faut veiller avec plus de soin encore, et mon expérience des brumes arctiques m'a appris, dans ce cas, à regarder autant en haut qu'à fleur d'eau. En effet, une crête de sommet élevé apparaît, couverte de neige, dans une échancrure de brume. C'est une vision de quelques secondes, et le voile ouaté et humide recouvre tout de nouveau. Nous avons franchi notre première étape. Bientôt, de grosses masses rondes et foncées que l'on pourrait prendre pour des nuages estompent la brume. Nous devons être très près de la côte élevée et effectivement de grandes boutonnières se produisent, nous montrant rochers et glaciers. Puis la brume se dissipe, nous laissant voir les hautes, abruptes, inabordables et sinistres côtes de l'île Smith, toutes couvertes de neige. Mais ce qui attire les regards de tous, c'est notre premier iceberg. Il est classique, tabulaire, dans toute sa pureté de forme, aux angles bien droits comme taillés à l'équerre. Tout près de la terre, probablement échoué sur quelques bancs de roche, cet énorme cube de 30 ou 40 mètres en dehors de l'eau est incliné. Et la teinte blanc bleuté de ses parois à pic, sillonnée de fentes et de crevasses d'un bleu d'outre-mer, fait ressortir davantage la blancheur de son plateau, le tout se détachant sur un arrière-plan de falaises nacrées, encadrées d'énormes glaciers qui descendent jusqu'à la mer. Au fur et à mesure que la brume se dissipe, l'étendue des côtes se dessine, et les derniers flocons s'arrachant aux montagnes, nous avons sous les yeux un décor trop magnifique dans sa grandeur sinistre, et il en est de l'impression que l'on ressent comme de la douleur qu'occasionne un plaisir exagéré des sens. Nous longeons l'île Smith à quelques milles pour en contourner l'extrémité sud-ouest. De nombreux icebergs, tous tabulaires, sont échoués le long de la côte. À peine avons-nous doublé la pointe que d'autres, ceux-là flottants, imposants et énormes, semblent baliser la mer qui s'étend vers le sud. Nous en comptons déjà plus de 12, et leur forme régulière rend le spectacle plus étrange, gigantesque cristallisation de la région enchantée, où le rideau de brume en se levant nous a introduits subitement. Nous gouvernons pour reconnaître les roches marquées sur la carte, sous le nom de Roche Williams, mais elle n'existe probablement pas. Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à ce qu'un navigateur puisse prendre pour une roche un petit iceberg, car déjà, à côté des tabulaires de beaucoup les plus nombreux, nous en voyons d'autres aux formes variées, tabulaires, chavirées ou débris de ceux-ci, qui à une certaine distance et suivant l'éclairage, peuvent paraître tout noirs. Ce n'est qu'en approchant que l'illusion d'un rocher s'efface. Nous nous dirigeons ensuite sur l'île Low, île basse, qui mérite bien son nom, étant un vaste plateau légèrement bombé, sans une saillie remarquable. C'est une croûte de neige et de glace apparaissant absolument lisse à distance et reposant sur une base étroite de rochers brun rougeâtre. De nombreux récifs en hérissent les approches, dominés par les icebergs qui semblent veiller sur l'île comme des sentinelles de légende. Nous longeons cette terre, peu attirante, en la laissant à notre gauche. La mer est absolument calme, avec des reflets d'une grande douceur. La brume, très élevée, nous permet de voir assez loin et le silence serait complet sans les innombrables pingouins qui plongent autour de nous et le bruit d'échappement de vapeur ou de formidables scies circulaires que fait quelques baleinoptères ou quelques mégaptères en venant respirer à la surface de l'eau. Non loin de nous, sur un iceberg en dos de baleine dont la partie supérieure est teintée de rouge sang, une vingtaine de petits êtres noirs, triangulaires à cette distance, se promènent. Ce sont des pingouins, et les taches rouges que nous apercevons également sur quelques points de l'île Low sont des diatomées, probablement les mêmes que celles décrites par Darwin sur la neige des Cordillères et qui apparaissent surtout sur la neige foulée. Cette soirée est douce et reposante. L'Antarctique nous reçoit avec coquetterie et bonne grâce. La nuit graduellement nous enveloppe et nous marchons tout doucement pendant ces quelques heures de durée. Il fait froid, mais nous ne portons que nos vêtements ordinaires. Je ne distribuerai que très graduellement et le plus tard possible ce que je destine à l'Antarctique. D'ailleurs, personne ne réclame et je me contente de donner une paire de mitaines pour l'homme de bar. Février. À 1h du matin, il fait déjà clair. Nous sommes dans une brume peu épaisse par calme plat. Les baleinoptères autour de nous sont très nombreux, généralement deux par deux, passant et repassant en plongeant sous le bateau. Et nous pouvons à loisir étudier tous les détails de leur structure et de leurs mouvements. Ces énormes bêtes, presque difformes, ont cependant une majestueuse élégance. C'est avec un certain respect que je les contemple, et ce respect n'est pas dû à la crainte, car de ces masses, où on ne peut déceler aucune expression, ni dans les yeux, ni dans la physionomie, il émane une impression de très grande douceur, de satisfaction placide dans leur gigantisme des âges antédiluviens proportionnés à l'immensité où elles vivent. Il semble que ce soient des bêtes heureuses, et le bruit même de leur respiration est comme un large et profond soupir de béatitude. Ils approchaient, paisibles, curieux, regardant le vaisseau comme un frère d'espèce nouvelle. Ils y prenaient plaisir, faisaient fête aux nouveaux venus. Vers 2h du matin, à tribord, devant une étroite fente laissée entre la surface de l'eau et la brume qui se lève, j'aperçois, rejoignant l'une à l'autre et paraissant comme les colonnes monstrueuses d'un temple de cyclopes, un amas d'icebergs. Puis, bientôt, entre ces colonnes, on distingue des rochers. C'est une île, avec, ainsi que d'habitude, des icebergs échoués sur les bas-fonds. Peu à peu, elle nous apparaît assez vaste, avec un haut sommet arrondi, le tout, bien entendu, entièrement couvert de neige, de glace et, ici et là, une rare tache brunâtre due à la saillie de quelques rochers. Nous en faisons le tour, passant aussi près que la prudence le permet. Mata et Ray en relèvent les contours pendant que les autres photographient et prennent des croquis. Les côtes sont partout extrêmement abruptes. Tantôt formés par le glacier, même descendant comme une falaise de verre dans la mer, tantôt par des rochers déchiquetés trop à pic pour permettre à la neige d'y séjourner. Ces rochers, dont quelques-uns très élevés, forment de grands promontoires à la crête aiguë et dentelée comme une scie gigantesque. La longue houle de la mer, cependant bien calme aujourd'hui, brise sur la côte avec violence. Les grandes éclaircies de brume nous permettent de distinguer maintenant, dans le sud, une quantité d'îles ou des caps saillants séparant de vastes baies encombrées d'icebergs et de rochers. L'île que nous contournons est évidemment Ocezone et nous ne sommes pas loin de l'entrée nord-est du détroit de Gerlache, sur la côte nord-ouest de l'archipel de Palmer dont les contours n'ont jamais encore été relevés. Et nous allons pouvoir commencer à exécuter la première partie de notre programme. Ce n'est pas la moins importante. Cette région a été, et peut-être encore, fréquentée davantage par les pêcheurs de phoques ou de baleines. Ces terres sont le point d'atterrissage de toute expédition dans cette partie de l'Antarctique. C'est donc œuvre incontestablement utile que nous allons essayer d'accomplir. Nous commençons immédiatement notre travail, profitant du temps relativement clair, bien que la brume ne veuille point laisser dégager les hauts sommets que nous devinons. L'ice blink, ce reflet blanc particulier, caractéristique de toute étendue un peu vaste de neige ou de glace, nous indique les terres dont nous ne distinguons plus les contours, comme l'île Smith et l'île Low. Les icebergs ne nous gênent pas. Ils ne sont pas nombreux au large et nous n'avons qu'à éviter quelques gros débris, peu dangereux avec la mer calme dont nous bénéficions pour le moment. L'après-midi, la neige tombe en abondance par petits flocons serrés. C'est notre première neige de l'Antarctique et nous la recevons gaiement tout en pestant un peu car elle nous empêche de voir. À la neige succède la brume et la journée se passe ainsi en éclaircies trop courtes, alternant avec un temps complètement bouché. Hélas, à 9h du soir, ce que j'appréhendais depuis longtemps arrive. Goudier, le mécanicien, me prévient qu'un des tubes de la chaudière bâbord vient de crever. On stoppe pour le tamponner, mais on s'aperçoit que tous sont plus ou moins bouchés malgré les extractions fréquentes, car le condenseur, comme nous l'avions prévu, perd d'une façon formidable. Dans ces conditions, avec une seule chaudière allumée, nous gouvernons à peine. Si nous n'arrivons pas à nous réparer tant bien que mal, nous voilà dans une mauvaise posture au début même de nos travaux. Mais je me suis imposé comme principe, quoi qu'il arrive, de ne pas me démoraliser. Nous sommes tous, je crois, dans les mêmes dispositions et je chasse par un grand effort l'angoisse qui m'étreint. Février. Calme, brume et tombée de neige. Nous marchons, qu'un quart. Toujours autour de nous, beaucoup de baleinoptères. L'un d'eux se tient avec persistance à l'arrière du bateau, plongeant et reparaissant pour respirer. Le petit Guéguin est à la barre. Il le regarde avec inquiétude, puis tout d'un coup, n'y tenant plus, avec un geste d'un haut comique, sous la neige qui tombe, levant sa main grossie par la mitaine, il me crie d'une voix convaincue. « Commandant, pour sûr, elle va bouffer le loche !» Dans la matinée, un tube de la chaudière tribord se met à fuir, puis bientôt un autre. Malgré la situation un peu dangereuse où nous nous trouvons près de la côte, au milieu d'une brume intense avec des courants dont nous ignorons la vitesse et la direction, il faut à 10 heures se résoudre à stopper pour nettoyer les tubes aussi bien que possible et éviter d'irréparables accidents. La brume épaissit davantage et il tombe fréquemment de la neige. Le silence est absolu et imposant. Beaucoup de tout petits débris d'iceberg passent le long du bord, quelques-uns usés par la fonte et par leur mouvement perpétuel dans la mer, affectent des formes bizarres, souvent élégantes, de longs coups de cygne, de pattes de crabe fantastiques, de bras tordus, dans un appel désespéré. À 4 heures du soir, pendant une éclaircie de courte durée, nous voyons la terre devant, à 2 encablures à peine, avec des cailloux où la mer brise. Mata dans le you-you part en reconnaissance. Il faut nous éloigner rapidement. Nous virons de bord avec une embarcation devant, puis nous déhalons lentement, la chaudière bâbord mise rapidement en pression, lorsqu'un tube crève encore et nous voilà de nouveau en dérive. Pleno tue d'un coup de fusil un malheureux pingouin qui passait le long du bord et descend avec Mata dans le you-you pour le chercher. En quelques coups d'aviron, ils sont perdus dans la brume, qui épaissit presque subitement. Et ce n'est qu'avec assez de mal, en se servant des cornes de brume, qu'ils parviennent à regagner le bateau. Deuxième partie. Automne 1904. Installation et commencement de l'hivernage. 5 mars. C'est donc ici que nous allons hiverner. Et tout en regrettant de ne pas être plus au sud, je suis obligée de m'avouer que nous sommes dans des conditions extrêmement favorables. D'ailleurs, malgré le long ruban de côte parcouru, nous n'avons pas trouvé d'autre point où un hivernage fût possible, sauf toutefois Port-Lockroy dans l'île Vieng. Mais ainsi que je l'ai déjà dit, Port-Lockroy, malgré l'abri absolument sûr qu'il offre, et en raison même de cet abri, n'est recommandable ni pour les observations météorologiques, ni pour les raids. Ici, bien au contraire, tout, sauf le peu de protection du côté nord-est, est séduisant. Nous sommes par 65,5 degrés de latitude sud et 64 degrés de longitude ouest de Paris, à la limite des découvertes de la Belgica sur la côte ouest de la terre de Graham, dans une région où aucune observation régulière de quelque durée n'a été entreprise. Un degré plus au sud que la station d'hivernage de Nordenskjöld sur la côte est de la même terre, ce qui ne peut que donner plus de valeur aux travaux des deux expéditions. Vandel formant une sorte de pointe avancée, nous avons presque tous les avantages de la haute mer sans les inconvénients de la banquise, et notre vue est bien dégagée depuis le nord-est jusqu'au sud-est en passant par l'ouest. Grâce aux rochers qui émergent de la neige, nos instruments et les constructions qui doivent les protéger pourront être établis d'une façon solide et fixe. Les sommets des collines faciles à atteindre nous permettront d'observer à différentes hauteurs et de nous rendre compte à chaque instant de ce qui se passe au loin. Les eaux, qui doivent être relativement calmes dans les baies qui nous entourent, nous promettent, tant qu'elles seront libres, de même que les innombrables récifs et bas-fonds faciles à explorer, de fructueuses pêches zoologiques. J'espère que, le long de ces côtes bordées d'îlots, la banquise ne sera pas longue à se former, et que nous pourrons entreprendre des raids, peut-être même explorer le continent, malgré son aspect rébarbatif. Enfin, nous serons ici au milieu des pingouins, des cormorans et des phoques, dont nous pourrons étudier les mœurs intéressantes, avec l'assurance, quoi qu'il puisse arriver, de ne pas mourir de faim, tout au moins. Nous pourrons habiter dans notre bateau, pour ainsi dire à quai, aussi confortablement installé que possible, et par conséquent, dans les meilleures conditions désirables pour fournir véritablement un bon travail. L'île Vandel est formée par deux grands massifs rocheux, dont les sommets atteignent 800 et 900 mètres. Le massif sud, de beaucoup le plus étendu, étant presque une petite chaîne de montagnes. Ces deux massifs sont réunis par un mur étroit de glace et de névés d'une trentaine de mètres de hauteur au-dessus de la mer, long d'un kilomètre aux parois perpendiculaires, se continuant au nord et au sud par les glaciers chaotiques qui en descendent. Tout cet ensemble, qui peut être comparé à un long haltère, constitue une des rives du chenal de Lemaire. Du massif sud, presque au point de jonction avec le mur de glace, se détache une série de gradins étroits venant du sommet, formant contreforts, s'aplatissant et s'élargissant enfin en une sorte de plateau mamelonné où nous allons nous installer. Un de ces gradins, d'accès relativement facile, est celui où Mata a déjà fait un tour d'horizon le 23 février. Nous l'avons appelé le sommet Jeanne et un signal hydrographique y a été établi. Une coupure brusque qui sépare le dernier gradin du plateau a été baptisé, ainsi que je l'ai dit plus haut, le défilé de la hache. À ce défilé succède un plateau situé à une trentaine de mètres de hauteur, puis une sorte de vallée ou plutôt de col allant de la baie nord à la baie sud, limitée de l'autre côté par une colline de 62 mètres de hauteur, faisant face à la haute mer que nous avons appelée la colline du Cairn. Une large baie s'ouvre au nord. C'est là que se trouvent les petites anses, dans la plus profonde desquelles nous avons placé le français, et une série de promontoires très bas, plus ou moins allongés. Le plus important de ceux-ci prolonge le cap nord-ouest de l'île et forme à la vérité un îlot, la languette de terre qui le rattache étant à peine recouverte de quelques centimètres d'eau à mer basse. Au sud, la côte, beaucoup plus régulière, forme également une baie dont les eaux se continuent avec le chanal de Lemaire et baignent le nord de l'île Hofgaard. La côte ouest et nord-ouest se découpent en une série de baies peu profondes, plus ou moins encombrées de récifs. C'est à proprement parler l'une des rives du chenal, l'autre étant constituée par une série de petits îlots dépendant de cet archipel touffu et de ces récifs que nous avons éprouvé tant de difficultés à traverser. La côte nord, dans les environs du défilé de la Hache et du massif sud, se présente en falaises rocheuses à pic. Ailleurs, elle descend par des pentes plus ou moins douces jusqu'à la mer, formant même par places des espèces de plateaux. Il en est ainsi dans la plus grande partie de la côte ouest et nord-ouest. Mais, sauf à l'aboutissement du vallon qui coupe notre grande presqu'île en deux, la côte sud est formée d'apics de glace et de névés en rupture brusque et subite. Ceux des contreforts du massif sud, extrêmement élevés, celui de la colline ouest atteignant une quarantaine de mètres. La crête de ces précipices est crevassée, surplombante, prête à se détacher, éminemment dangereuse pour le promeneur trop confiant et donnant l'aspect, à une certaine distance, de franges et de dentelles élégantes. C'est la même configuration que celle des îles en calotte rencontrées depuis notre arrivée dans cette région, démontrant, une fois de plus, que les vents prédominants en force comme en durée viennent du nord-est, accompagnés de neige et de chasse-neige. Les saillies rocheuses, sorte d'armature pour ces formations dont elles décident la morphologie, ont été recouvertes d'abord par la neige, puis, ainsi transformées et offrant une surface de plus en plus grande de contact, d'adhérence et d'accumulation, ont été polies en convexité douce ou en éperon, du côté d'où souffle le vent, tandis que sous le vent, ces collines de neige, ces montagnes même, ou simplement ces talus neigeux, cessent brusquement par une paroi verticale que dominent les bavures du névé. Toute notre île, comme la totalité des terres rencontrées, est en somme recouverte d'une épaisse couche de névé, de neige et de glace. Seules les grandes parois verticales des massifs tranchent par leur couleur sombre et par places de grosses roches arrondies, grisâtres ou noires, maculées parfois de lichen jaune ou orange, font tache sur la blancheur uniforme. À 4 heures, le vent tourne au nord-est et 2 heures après souffle en tempête avec brume, neige et grésil. Heureusement, les glaces qui arrivent, les premières, sont accompagnées de tout petits morceaux sans épaisseur qui, envahissant assez rapidement notre anse, empêche la houle qui aurait pu se former et font tampon contre les gros glaçons et ice blocks qui arrivent à leur tour poussés par le vent. L'accumulation de ceci devient considérable. À chaque instant, une nouvelle masse blanche surgit de la brume grise, prenant un aspect plus fantastique par sa brusque apparition. Elle semble s'unir pour détruire la faible barrière que des hommes ont osé leur opposer. Mais l'attaque est mal combinée. Se pressant et se contrariant à l'entrée de notre bassin, les gros glaçons, dans leur hâte de nous écraser, empêchés par le barrage qui résiste et les petites glaces légères qui remplissent tout, sans danger pour les flancs solides du français, finissent, grâce à la pression continuelle, par former une sorte de masse compacte. Et quand le barrage cède enfin, le danger est conjuré. Nos ennemis deviennent nos meilleurs alliés, car bouchant complètement et hermétiquement l'entrée, ils s'opposent à toute nouvelle intrusion de leur pareil, et même de la plus petite houle. Le bateau et les glaces qui lui sont accolées sont immobiles. Et cependant, derrière cette armée de monstres arrêtés, se fondant dans le nuage de ouate grise qui enveloppe tout, nous entendons la mer qui brise furieusement et le fracas des glaces bousculées qui se heurtent et grincent les unes contre les autres. Presque au début de la tempête, une de nos amarres d'arrière a cassé. Sautant rapidement avec les hommes de bloc en bloc, nous avons pu la remplacer. Malgré l'inquiétude de l'attente dans l'issue de cette lutte avec des forces inconnues, il y a une véritable ivresse à jouer ainsi les Gilliates. Arc-bouté contre le vent, essuyant mes yeux de mes mitaines durcies par les cristaux de neige, crachant ceux qui envahissent ma bouche dès que je l'ouvre pour respirer, toute l'attention tendue vers l'ennemi qui nous attaque, je fredonne automatiquement les vers d'Orphée qui me reviennent en obsession orgueilleuse. Quel est l'audacieux qui, dans ces sombres lieux, ose porter ses pas. Vers 11h, le vent tombe graduellement.